RCF. RCF, les racines du présent.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce studio de RCF pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, toujours en partenariat avec le quotidien La Croix. En cet automne finissant, nous nous promenons dans nos forêts et nous y contemplons des arbres. Nous devons alors nous rappeler que ceux-ci sont en fait les fruits d'un long, très très long passé. De Clovis à Charles de Gaulle, en passant par les Valois, par Colbert, la Révolution, les guerres mondiales, à chaque étape, notre pays a été marqué par une politique forestière. Celle-ci a répondu aux enjeux de son temps, à la volonté des souverains de domestiquer la nature. Il s'agissait alors de préserver les chasses royales, puis de construire une marine royale digne de ce nom. Alors avec notre invité, nous allons tenter de mieux comprendre l'histoire de nos forêts. Daniel Perron, bonjour.
Bonjour Frédéric Mounier.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en droit, spécialiste de l'histoire du droit. Vous enseignez à l'Université Paris 1. Vous avez été conseiller de Guillaume Garot alors qu'il était ministre délégué à l'agroalimentaire à la forêt de 2012 à 2014. Puis vous êtes devenu chef de la prospective à l'ONF, l'Office National des Forêts. Et vous êtes également membre de l'Observatoire de l'Agriculture et du Monde Rural de la Fondation Jean Jaurès. Depuis 20 ans donc, vous étudiez les politiques rurales et forestières de notre pays. Vous êtes sans doute l'un des plus fins connaisseurs des enjeux de cette forêt. Et vous avez récemment publié aux éditions de l'Aube un livre intitulé « La forêt française, une histoire politique ». Alors votre livre qui n'est pas nostalgique est cependant très précis, très fouillé, et son grand mérite est de nous inviter à découvrir les forêts que nous arpentons et surtout leur histoire. Alors avec vous, nous allons parcourir plus de 9 siècles d'histoire de la forêt, durant lesquels se sont mêlées conceptions coutumières, communales, royales, économiques, puis aujourd'hui environnementales. Voilà, c'est le thème de cette édition des Racines du Présent, nos forêts si précieuses d'hier à aujourd'hui.
Les Racines du Présent, Frédéric Mounier.
Aujourd'hui, dans cette édition des Racines du Présent, nous allons nous promener à travers nos forêts, mais surtout à l'histoire de nos forêts. Nous allons découvrir avec notre invité Daniel Perron, auteur d'un livre passionnant intitulé « La forêt française, une histoire politique » aux éditions de l'Aube. Eh bien, nous allons découvrir à quel point ces forêts nous sont précieuses à nous tous d'hier à aujourd'hui. Alors Daniel Perron, tout à fait au début de votre livre, vous précisez quelque chose qui est absolument essentiel pour comprendre notre histoire de nos forêts, c'est que l'arbre de tout temps a été à la fois pour nous un allié avec lequel nous sommes entrés en symbiose et nous voulons encore aujourd'hui entrer en symbiose, et puis aussi un concurrent qu'il nous a fallu combattre pour, bah oui, pour vivre, pour installer l'agriculture et la sédentarité de l'humanité. Vous confirmez ce paradoxe, Daniel Perron ?
Oui, tout à fait. Alors, j'aime beaucoup, moi, l'image qui est de dire que l'homme ne serait pas l'homme s'il n'y avait pas eu la forêt,
vraiment,
s'il n'y avait pas l'arbre. Ouais. Certainement, puisque c'est d'abord à travers la forêt, nous avons une première chose qui est le matériau bois. Mmh. Il faut savoir qu'à partir du moment où on connaît le feu, c'est bien à travers le bois qui brûle.
Il faut le rappeler.
Oui, et c'est d'autant plus important, c'est ce qui permet la civilisation. Initialement.
Le feu pour cuire.
Exactement, pour construire des armes, pour voilà. etc. Mmh. Et donc, toute la civilisation, on l'oublie, mais jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'aux énergies fossiles,
ouais,
est fondée sur cette industrie du bois.
C'est-à-dire quasiment le début du XXe siècle.
C'est très récent. Oui. Notre société est de l'énergie fossile telle que nous la connaissons est extrêmement récente.
Oui.
Et au fond, l'humanité, elle vient bien. Sa civilisation vient bien du bois.
Et pas seulement parce que nous descendons de l'arbre.
Et pas seulement parce que nous descendons de l'arbre, mais c'est parce que nous en sommes finalement émancipés.
Alors, de quelle façon ?
Alors, tout simplement, d'abord, on pourrait remonter très loin à l'agriculture. C'est-à-dire que la sédentarisation fait que nous allons commencer à lutter contre la forêt. Nous ne sommes plus des cueilleurs-chasseurs, où on peut s'adapter à la forêt, finalement. C'est ce qu'on voit encore chez certains en Amazonie ou ailleurs.
Absolument.
Là, non. On se sédentarise, donc on fait des champs pour faire cela.
Il faut défricher. On défriche.
Effectivement. Et ça, c'est un geste de civilisation qui est un geste premier de civilisation.
Est-ce qu'on peut utiliser un gros mot qu'on utilise peu aujourd'hui, mais est-ce que ça a été un progrès ?
Ah ben, indéniablement. Oui. Du point de vue de l'humanité, oui.
C'est ça.
Nous en sommes, nous n'en serions pas là aujourd'hui où nous en sommes, dans cette émission de radio, sans ces premiers gestes-là.
C'est ça, la sédentarisation nous a permis, à travers le défrichage de la forêt, d'exister et de croître en tant qu'être humain.
Tout à fait. Et ça, bon, c'est, évidemment, c'est lié à l'histoire de l'agriculture. Et l'agriculture, c'est une lutte permanente contre la forêt. Et d'ailleurs, nous le voyons aujourd'hui, nous pourrons le voir tout à l'heure sans doute, mais ce que l'on voit des lieux qui sont finalement désertés par l'agriculture, c'est qu'ils sont repris par la forêt. C'est donc bien...
Rapidement.
Relativement rapidement,
ouais,
oui.
Ça en va tout beaucoup cas, plus vite dans ce sens-là.
Oui. En tout cas, à l'échelle humaine, à l'échelle d'une vie, aujourd'hui. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est cette tension permanente, finalement, entre l'espace agricole et l'espace forestier. Hein, je rappelle toujours, aujourd'hui, l'espace français, si on le délimite du point de vue global, c'est 50% d'espace agricole, 30% d'espace forestier, et le reste... qui est consacré aux infrastructures.
Le reste, c'est là où nous habitons, voilà. Et là où nous vivons.
Voilà.
D'accord. Alors, il faut rappeler, et je pense que ça fait partie aussi de la base de votre regard sur la forêt, que la forêt la plus utile à l'homme n'est pas la forêt vierge, ni celle qu'on abandonne à elle-même, et certains aujourd'hui seraient proches de cette idée-là, mais au contraire, ce que vous appelez la forêt mixte, éclaircie et cultivée. On cultive une forêt.
Oui, non seulement on la cultive, mais... Alors, je suis juriste, donc juridiquement, on a même créé la forêt. Mmh. C'est-à-dire qu'on crée un espace qui va nous servir, alors, à la chasse, nous le verrons, mais aussi donc à cultiver du bois, véritablement. Mmh. Cette idée que la forêt est strictement naturelle...
Ça pousse pas tout seul.
Alors, ça pousse tout seul, mais ça ne s'organise pas tout seul.
Il faut planter, sélectionner,
voilà,
protéger...
Il faut sélectionner, planter. Si on veut récolter le bois, si on veut récolter les hautes futaies, eh bien, il faut... faire un geste qui est presque un geste agricole. Alors, c'est un geste humain qui est un geste, évidemment, sur plusieurs générations. Mais les hautes futaies, par exemple, quand on a des arbres à 30 mètres ou 50 mètres, sont bien des arbres qui ont été, entre guillemets, travaillés pour ce faire.
Et quand vous dites sur plusieurs générations, vous avez deux exemples que je cite qui sont très, très parlants. L'arbre récolté aujourd'hui à flanc de montagne est le résultat d'une politique décidée sous Napoléon III, dans certaines de nos régions. Et de même, les grandes forêts cathédrales d'Orléans sont largement issues de la pensée du XVIIe siècle et de l'action résolue de Colbert.
Tout à fait.
Ce sont nos ancêtres.
C'est la fameuse forêt de Troncet, où on avait encore, il y a quelques années, alors c'est désormais fini, peut-être en reste quelques-uns, mais je ne suis même pas sûr. Mais voilà, c'était la forêt colbertienne, au sens propre du terme, celle qu'on a créée véritablement, là, pour la marine.
Pour la marine, voilà.
Pour la marine.
Là, on parlait tout à l'heure du bois de chauffage, du bois de construction, du bois pour les armes, mais la marine, à un moment, c'était une prérogative régalienne, indispensable à l'existence de notre pays.
Ah, c'est vraiment... Le bois, en règle générale, pour l'armée, était essentiel. Mmh. Pour la marine, il fallait évidemment des bois. Alors, des bois très structurés, des bois très particuliers. C'était des essences de chêne, notamment le chêne rouvre et le chêne blanc. Voilà, il y avait deux essences principales. Et c'est cela qu'on va travailler. Et le geste du politique... Et le geste royal, en l'occurrence, alors, là on parle de Colbert, mais ça existe déjà avant, c'est bien de créer les conditions d'avoir une récolte plus tard. Donc on pense à un siècle et demi, là, 120, 150 ans, de quoi
ça,
finalement alimenter dans le temps long une marine digne du Royaume de France.
Donc il faut faire de la prévision à un siècle et demi et vous rappeler que pour un vaisseau de 100 canons, il faut 3500 mètres cubes de bois.
Voilà.
Ce qui n'est pas tout à fait rien quand même. Il faut imaginer la puissance de la pensée prospective qui doit emmener le concepteur jusqu'à un siècle et demi au-delà de lui-même.
Tout à fait. On est par exemple au moment de la Révolution, on est à un besoin de bois pour la marine de 180 000 mètres cubes par an.
Voilà. Ce qui représente quelle surface ?
Alors,
c'est difficile à dire.
C'est difficile à dire, parce que ça dépend de ce qu'on va appeler le taux de chargement, etc. Donc, c'est très difficile à dire. Mais ça reste considérable, d'autant plus qu'à l'époque, on en importait un tiers.
Alors, on va revenir sur toute cette époque-là, mais on va commencer cette histoire dès le début. Nous avons appris à l'école, enfin, les plus âgés d'entre nous, peut-être, que la Gaule chevelue était couverte d'arbres. Alors, est-ce un mythe ou une réalité, Daniel Perron ?
Alors, c'est sans doute un mythe.
Oui.
Les gens qui s'occupent de Bibract, par exemple, vous expliquent très bien que non, la Gaule était plutôt agricole. Donc, il y a une nouvelle pensée, effectivement, autour de cette histoire qui est liée à beaucoup d'études scientifiques sur les sols et autres. Mais ce n'est pas pour rien qu'on a dit ça. C'est parce que, finalement, dans la guerre des Gaules, César nous explique que ces légionnaires ont extrêmement peur
des
sombres forêts. Oui. En fait, ce sont les forêts de l'Est qui sont effectivement extrêmement dangereuses pour ces légionnaires qui ne sont pas habitués à combattre là. Et donc, on a construit ce mythe, finalement, de cette... presque dire d'une Gaule qui serait une forêt des carnutes.
C'est ça, voilà. Mais en fait, non. En fait, le défrichage ou le défrichement, je ne sais pas comment on dit, a toujours été une réalité.
On peut dire les deux.
Ouais. Dès cette époque-là.
Oui, dès cette époque-là. Dès cette époque-là, et on peut même, avec cette problématique du transport du bois, on peut même avoir des difficultés, puisqu'on n'a pas les éléments de transport qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, pour transporter un arbre, le transférer sur une cité gauloise, eh bien, il faut parfois du temps.
Il faut le faire flotter.
Par exemple.
C'était les autoroutes à l'époque.
Oui, c'était des autoroutes. Ouais. D'ailleurs, il y a toute une législation qui est née après pour aider justement ces autoroutes, la fluidité du transport sur ces autoroutes.
On n'imagine pas ce à quoi ont servi nos fleuves.
La Seine.
Vous devriez faire une histoire des fleuves, Daniel Perron, une fois que vous aurez assouvi votre passion pour la forêt. Alors, venons-en au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, vous commencez à évoquer les autorités médiévales. Là, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui... Il y a une tension, c'est du moins ce que j'ai cru comprendre en lisant votre livre « La forêt française, une histoire politique » aux éditions de l'Aube. Il y a une tension entre les pouvoirs politiques, qu'ils soient locaux ou embryonnairement nationaux, et puis les paysans. Il y a une autorité suprême qui veut avoir la main mise sur les forêts, qui veut pouvoir gouverner les forêts.
Oui, en réalité, dès les Mérovingiens, ça commence. Alors, il y a deux raisons à cela. Il y a la chasse et l'économie. Alors, on a très peu de textes juridiques. En réalité, avant le 9e siècle, on ne sait pas trop ce qui se passe. On a quelques éléments.
On vous le pardonne.
Voilà. on a quelques éléments comme ça, un peu épars, sur la chasse notamment. Mais au fond, on a toujours ce besoin. Le roi, il a une maison qu'il faut entretenir. Bien, les éléments économiques pour l'entretenir, il n'y en a pas, 150, si je puis m'exprimer ainsi. Et du coup, le bois est un élément de cette économie. Et il y a aussi la chasse, qui est extrêmement importante et qui va être réservée. C'est un élément du pouvoir souverain.
C'est pas juste un divertissement.
C'est pas seulement un divertissement. Chose. C'est au-delà de ça. Ça fait partie du mythe. C'est un mythe véritable de la monarchie. Alors, on rappelle toujours, c'est Dagobert qui poursuit un cerf et qui retrouve le corps de Saint-Denis. Et il le retrouve à un endroit que nous connaissons tous aujourd'hui, puisqu'on a décidé d'ériger une cathédrale à cet endroit-là. Et on y a
à Saint-Denis.
À Saint-Denis.
C'est l'origine de la cathédrale.
C'est l'origine mythique
absolument.
de la cathédrale. Et on y enterre les rois. Donc, on a quand même une mystique, j'allais dire, de la forêt et de la chasse, qui est liée aussi donc à ce besoin de se réserver un espace où le pouvoir est complet.
Et n'est pas contesté.
Alors,
c'est l'embryon du pouvoir royal.
Et ce que moi, j'essaye de montrer, c'est que c'est à travers la forêt que le roi va découvrir finalement quelque part sa puissance et développer sa puissance, son pouvoir absolu à la fin, chez Louis XIV par exemple. La forêt sert comme ça, socialement, j'allais dire, sert la société, sert le roi pour fonder un pouvoir de plus en plus fort sur l'espace.
D'accord, à travers la forêt.
Durant
cette évolution dont on imagine qu'elle a été longue, comment s'est passée la tension entre le peuple et donc les gens qui habitaient là et la monarchie naissante ?
Alors, il faut encadrer l'espace forestier. Pour l'encadrer, on va mettre en place un certain nombre de règles qui vont limiter complètement les usages de la forêt par les paysans. Et là, on va se retrouver dans des situations alors, qui vont durer jusqu'au XVIe siècle, XVIIe siècle, où on va, par exemple, interdire la chasse, où on va limiter les prélèvements de bois, tout ça avec des règles parfois extrêmement difficiles, dures. On va jusqu'à la peine de mort.
Avec des sanctions très, très
avec
dures,
des sanctions
c'est ça.
Très voilà. dures. Là, je cite toujours, moi, la peine de la harte, qui est une peine de mort assez...
Bon, c'est-à-dire
bon, il s'agit d'entourer le cou du condamné par de l'osier, de serré, tout simplement. Donc, on est sur des peines d'Ancien Régime.
Oui, c'est une peine d'Ancien Régime qui était mise en œuvre lorsqu'il y avait une infraction.
Lorsqu'il y avait une infraction sur la chasse, par exemple.
D'accord.
Alors, c'était plutôt
donc
le gros
c'est du sérieux.
C'est vraiment
c'est
sérieux.
C'est du sérieux.
Oui.
On ne joue pas avec ça.
On ne joue pas avec ça et... On va même au-delà du paysan. Il y a une véritable lutte, notamment au moment de la féodalité, évidemment, entre les grands, les seigneurs et le pouvoir royal. Donc il y a ce jeu permanent, finalement. C'est la conquête de l'espace.
C'est
le
ça.
Pouvoir ne s'exerce pas s'il n'a pas d'espace.
Et il fallait un territoire.
Il fallait un territoire.
Et donc les forêts. Alors, il y a quand même un autre acteur de cette vie politique et sociale. À cette époque-là, tout à fait au début de notre histoire, ce sont les communautés ecclésiastiques, religieuses,
oui.
qui elles-mêmes possédaient des terres, possédaient des forêts. Et comment ça se passait entre la monarchie et ces communautés religieuses ?
Alors, bon, depuis Clovis, on sait qu'il y a un accord avec la papauté, avec la chrétienté. Et cet accord, évidemment, lorsqu'une communauté religieuse vient s'installer, elle a besoin de vivre. Et donc, on va lui donner un espace territorial. Et cet espace territorial, on va parler des moines défricheurs, hein, par
voilà.
exemple. Mais c'est tout simplement qu'on donne cet espace et que les moines vont, eux, travailler autour donc, du monastère et développer une agriculture autour du monastère. Il y a derrière ça aussi... alors. Ça ramène à toute l'histoire du travail. Comment est-ce que le travail se développe ? Est-ce qu'il est quelque chose de noble ou de non noble ? Et au fond, à travers l'usage de la forêt, se joue aussi ce lien social. C'est-à-dire que on va donner... au fond, c'est un accord, tout simplement, entre le pouvoir et la religion pour devenir de comment est-ce qu'on pourrait
pour
dire
co-gérer.
Pour co-gérer.
Pour
voilà.
co-gérer
c'est exactement le terme que je cherchais. Pour co-gérer
voilà.
le territoire.
D'accord. Ça a duré jusqu'à la Révolution ?
Non, ça dure bien moins. En fait, ça dure jusqu'au XIVe siècle.
D'accord.
Hein, à partir du XIIIe, XIVe siècle, en tout cas au XIVe siècle, c'est terminé. Et là, le pouvoir royal, l'État moderne, commence à se mettre en œuvre. Et là, l'État moderne n'a plus d'alliés véritables. Il est, on le verra à travers le gallicanisme, hein. Après, effectivement, il devient le pouvoir tout-puissant. Et il a finalement emporté contre la féodalité. Et c'est là qu'il organise, j'allais dire, son pouvoir pour devenir ensuite, pour aller vers l'absolutisme. Alors, qu'il faut toujours relativiser, parce que l'absolutisme n'est pas forcément ce que tout le monde entend. C'est
il
pas
est
un
toujours
pouvoir
en tension.
Absolu sur l'entente. L'entièreté du territoire et en forêt notamment.
C'est peut-être même un pouvoir qui se veut absolu plus qu'il ne l'est.
C'est une volonté.
Voilà, nous en arrivons au XIVe siècle. Vous nous expliquez que c'est à cette époque qu'a été créée l'administration des eaux et forêts pour gérer la forêt. Donc là, on a, à partir du moment où on crée une administration, ça veut dire que le pouvoir est réel sur ces territoires-là.
Alors le pouvoir est réel, c'est à l'époque 20% du revenu.
20%
de la maison du roi.
C'est ça.
Et notamment, ces 20% sont dédiés à la maison du dauphin et de la reine. Donc c'est quand même quelque chose qui est très important. Et là, les rois ont absolument besoin de ce revenu. Donc on va commencer à véritablement réguler la façon dont on gère cet espace, alors qui est la forêt royale. Hein. Il faut toujours bien se rendre compte que c'est le domaine dont on parle. C'est par là que finalement le pouvoir s'installe. Et on va commencer à mettre en œuvre des systèmes de gestion de la forêt, alors qu'on appellerait aujourd'hui la forêt jardinée, une régulation
exploiter,
finalement. Ça.
Exploiter
oui. tout simplement. Et surtout protéger. Et,
contre qui ?
Contre tous ceux qui voudraient l'attaquer,
oui,
c'est-à-dire les paysans, les seigneurs, etc.
Voilà.
etc. C'est-à-dire contre tous les usages, en fait.
Voilà. Alors, aidez-nous à situer ces forêts royales. Elles se trouvaient où ? Est-ce qu'on peut, aujourd'hui, les visualiser, en quelque sorte ?
Elles vont se trouver en Bourgogne, elles vont se trouver, en fait, sur en réalité sur tous les territoires. Ça, le domaine royal est extrêmement mouvant à l'époque.
Oui.
Hein.
On
peine à imaginer, en partie pas grand-chose. Par exemple, on n'a pas la Normandie. Donc après, une fois qu'on retrouvera la Normandie, là, on va se rendre compte qu'il y en a un territoire extrêmement forestier qui devient intéressant et très important en termes de revenus. Et donc, on va y organiser un droit particulier. Donc en réalité, voilà, on a une forêt qui est mouvante parce qu'elle suit l'évolution territoriale. Et comme vous le savez, parfois on va céder un territoire, d'autres fois on va échanger un territoire, etc.
Au fil des mariages, au fil des guerres, des traités. Voilà. Et donc la forêt, là, c'est une monnaie d'échange en quelque
sorte. C'est une monnaie d'échange.
D'accord. Alors si vous voulez bien, on va faire une première pause sonore. On va revenir à nos jours, mais en même temps, vous allez voir, ça va nous ramener 8 siècles en arrière. Nous avons tous été assommés, sidérés, inquiets de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais après l'incendie, on a vu toute une se lever des vagues d'espérance à travers le pays, notamment en ce qui concerne la reconstruction de la charpente. Et donc, on va écouter cet extrait de reportage réalisé par nos confrères de FR3 Limousin le 18 avril 2019, où il nous explique, vous allez l'entendre et vous allez réagir tout à l'heure, Daniel Perron, que du chêne limousin est utilisé pour la future charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Tout est parti d'une déclaration d'Alain Rousset. Moins de 5 heures après le début de l'incendie, le président de la région s'exprime sur Twitter.
La région Nouvelle-Aquitaine se mobilisera en tant qu'important massif forestier. Pourquoi pas s'organiser pour la reconstruction de la charpente en fournissant du chêne ou du châtaignier.
La forêt représente un tiers de la surface du Limousin.
Ce sont des grumes de chêne qui sont directement en provenance de la forêt.
Cette entreprise est la plus grosse productrice de chêne dans la région. Ici, 300 000 tonnes sont débitées chaque année.
Les bois qui sont derrière, comme on peut voir, c'est des bois qui sont très gros, jusqu'à 1,20 m de diamètre. Après, des bois qui font au moins jusqu'à 15 m de long, qui ont la qualité qui correspond parfaitement à des qualités de charpente pour des monuments historiques. C'est-à-dire que c'est des bois qu'on dédie spécialement à ça, pour les pièces qui sont hors normes et sur mesure.
Pour cette exploitation familiale, pas de doute, elle pourra participer à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Mais pour ce représentant de la filière bois, une charpente en chêne nécessitera la contribution d'autres départements.
On est une région où il y a du chêne qui peut servir en charpente, mais dans des quantités faibles. Les régions historiques de chêne, voilà, c'est pas la Nouvelle-Aquitaine, c'est pas le Limousin. Donc, dans un objectif de collecte de bois d'œuvre et de charpente, voilà, le Limousin et la Nouvelle-Aquitaine, ça risque d'être un peu juste pour fournir des grandes quantités.
Reste encore une question, la charpente de la cathédrale sera-t-elle en chêne, comme au XIIIe siècle? Ou encore en béton, en métal? Certains parlent aussi d'une reconstruction en Douglas, un résineux très présent en Limousin.
Voilà, c'était le 18 avril 2019, un reportage sur FR3 Limousin. Et vous l'avez entendu, du chêne limousin est promis à la reconstruction de la charpente de Notre-Dame de Paris. Comment vous qui êtes un expert forestier, un expert de l'histoire de la forêt française, Daniel Perron, je rappelle le titre de votre livre, La forêt française, une histoire politique aux éditions de l'Aube, comment vous avez traduit, compris, décodé cet engouement de nos forestiers pour participer à la reconstruction de la charpente de Notre-Dame de Paris, Daniel Perron?
Ah, pour moi, c'est la réponse à un traumatisme national, véritablement. C'est-à-dire que voir cette charpente partir en fumée a été, je pense, pour beaucoup de Français, la prise de conscience qu'on avait encore des monuments absolument extraordinaires. Mmh. Et il y a derrière ça... Alors, une fois que moi j'ai dit ça, le fait de traiter des questions forestières, je vois après ce traitement comme une réponse émotive à la chose. Et alors moi j'essaye toujours du coup de sortir de cette émotivité. En réalité, c'est une occasion de montrer l'importance de la forêt et du bois.
C'est une reprise de conscience.
C'est une reprise de conscience. Tiens, il y avait une charpente en bois à cet endroit-là.
Qui avait 8 siècles.
Qui avait 8 siècles. Et donc, la durabilité du matériau est absolument extraordinaire. Je ne suis pas sûr que beaucoup de bâtiments que l'on construit aujourd'hui dureront 8 siècles.
8 siècles, absolument.
Et ces charpentes en bois ont tenu 8 siècles. Et donc, il y a cette idée d'extraordinaire derrière cela. Et donc, je pense à une réponse émotive. Après, d'un point de vue strictement matériel, la charpente, c'est 1500-2000 arbres.
C'est pas beaucoup, finalement.
C'est 3 à 4 hectares.
Ouais.
Donc,
qu'on va récupérer dans plusieurs futaies françaises.
Qu'on va récupérer dans plusieurs futaies françaises.
Pour associer l'ensemble du pays.
La France, c'est 17 millions d'hectares de bois. Mmh. Là, on parle de 3 ou 4 hectares de chêne. Alors, c'est du chêne. Hein. Sur les 17 millions, c'est pas que du chêne. Mais voilà. Donc, en réalité, c'est pas tant que ça. Et après, on parle de la qualité. J'aime beaucoup dans l'extrait cette idée de bois extraordinaire. C'est pas si évident que ça à l'échelle du temps. Il est pas si évident que les bois qui ont été sélectionnés à l'époque étaient si extraordinaires. Tout simplement parce qu'ils venaient pas forcément de très loin. Ils étaient sans doute de la région. On construit là en local.
Vu les difficultés d'acheminement.
Et donc, il y a un peu cette idée. Au fond, il y a une mystique, mais que normale, complètement liée à cet édifice extraordinaire. Et donc, un petit peu, cette idée qu'on va refaire de l'extraordinaire sur l'extraordinaire.
Les racines du présent, RCF.
Les racines du présent, aujourd'hui, nous nous promenons en forêt, nous nous promenons à travers le temps, à travers l'histoire de nos forêts, en compagnie de notre invité Daniel Perron, juriste, historien, qui publie un livre intitulé « La forêt française, une histoire politique ». C'est aux éditions de l'Aube. Alors, il faut remonter au XVIIe siècle. Nous n'avons pas encore évoqué, Daniel Perron, la fameuse ordonnance de 1669, signée par Colbert, je cite, sur le fait des eaux et forêts. Vous insistez beaucoup dans votre livre sur le caractère fondateur de cette ordonnance et vous expliquez que c'est l'exemple absolu de la volonté d'emprise royale sur le territoire. Daniel Perron.
Tout à fait. Alors, en réalité, à l'époque de Colbert, c'est toute la construction, j'allais dire, de la puissance royale et donc de cette emprise sur le territoire. L'ordonnance de 1669 a ceci d'extraordinaire, c'est qu'elle remet de l'ordre dans le chaos textuel. Il y a un véritable chaos textuel. Et donc, il y a une œuvre véritablement presque de codification, on dirait aujourd'hui. Hein. On parle d'ordonnance de codification pour remettre de l'ordre dans cette gestion forestière. Et ça va très loin puisque on va gérer, par exemple, on va commencer à gérer les forêts privées. C'est-à-dire qu'on va commencer à donner des ordres aux propriétaires privés pour dire « ça, vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas, par exemple, couper vos arbres avant 10 ans, etc. etc. »
Donc on retrouve cette tension entre les indigènes, disons, les populations locales, et puis le pouvoir royal.
Tout à fait. Et c'est ce que les auteurs de l'époque racontent extrêmement bien. Ils disent que la forêt, c'est vraiment un acte de souveraineté pour le roi. Donc quand on parle de souveraineté royale, la forêt a toute sa place. Alors les grands auteurs en parlent. Alors moi je cite un auteur qui date de 1610 qui explique que la forêt est de droit public. Ça veut tout dire ça à l'époque. Ça veut dire que voilà, le roi a l'entière disponibilité de la gestion des forêts.
Alors comment ça s'est passé sur le terrain ?
Alors sur le terrain, c'est extrêmement difficile. Ouais. En réalité, ça ne se passe pas.
Oui.
En réalité, l'ordonnance de 1669 est une très belle ordonnance de papier. C'est un texte de volonté, mais c'est une volonté qui se heurte à la réalité. Et on le voit, alors un petit peu avant, avec ce qu'explique un maître de l'époque, qui est Monsieur de Froidour, alors qui lui va plutôt dans les Pyrénées, il explique qu'il y a une tension extraordinaire entre finalement les autorités locales et les usages locaux et la tension du texte qu'on a peine à appliquer.
C'est-à-dire
tout au long du XVIIIe siècle, c'est la même chose.
Le peuple disait « touche pas à ma forêt », c'est ça ?
Le peuple disait « touche pas à ma forêt », il disait surtout « touche pas à mes usages ».
C'est-à-dire à mes capacités de financement, d'alimentation, de construction, de nourriture, etc.
Ce qu'on oublie aujourd'hui, c'est que la forêt, à l'époque, est agricole. On y fait paquer, on appelle ça la paisson pour les porcs, on y fait paquer les porcs qui vont se nourrir des glands, par exemple.
C'est une nourriture de base, le porc est une nourriture de base.
Qui est une nourriture de base.
Alors que la viande est rare.
Alors que la viande est rare. Et donc, l'élevage se fait aussi en forêt.
D'accord.
Et donc, à partir du moment où on interdit, où on limite très fortement l'entrée des animaux en forêt, on met à mal la paysannerie.
C'est ça.
Et ça, cette tension-là, le pouvoir, finalement, commence à économiser, au sens de mettre de l'économie, dans sa gestion forestière. Alors, depuis quelques siècles, en réalité, le mouvement est lent. Mais 1669, c'est l'apogée, en tout cas sous l'Ancien Régime, de cette volonté.
Est-ce qu'il y a eu des révoltes ? Est-ce que les paysans, les populations locales se sont révoltés contre cette codification ?
Alors, les révoltes se feront au XIXe siècle. Mmh. Plus tard, effectivement, après 1827, là, pour le coup, alors, dans les Pyrénées, toujours, c'est l'Ariège. On parle de la révolte des demoiselles, tout simplement.
Alors, il faut préciser, c'était suite donc à ce qui est en quelque sorte l'avatar de l'ordonnance de 1669. Voilà. C'est donc le code forestier de 1827. C'est la même chose en plus grand, c'est ça ?
C'est la même chose en plus grand et oui. En post-révolutionnaire.
C'est ça.
Voilà.
D'accord. Et donc, à ce moment-là, vous nous expliquez que en Ariège, on a assisté à la guerre des demoiselles.
Tout à fait. Alors, c'est...
Les paysans se sont déguisés en femmes
les paysans
pour mener des actions.
Se déguisaient en femmes, c'est-à-dire que c'était le costume de carnaval, en mmh. réalité. Et ils menaient des actions, souvent, avec les autorités locales. C'est-à-dire avec presque, non pas l'autorisation, mais la complicité, mmh. parfois, des autorités locales.
Contre Paris.
Contre Paris.
Oui.
Et donc, on essayait, effectivement, de ne pas appliquer les textes. Alors c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que la doctrine, ce que moi j'appelle la doctrine forestière, c'est-à-dire les auteurs forestiers ne parlent jamais au cours du XIXe siècle de ces révoltes. C'est comme si elles n'existaient pas.
Ah oui. Pourquoi ?
Sans doute parce qu'on ne veut pas voir la réalité. Sans doute parce qu'on on préfère cacher les choses et on préfère finalement cacher cette transformation de la forêt qui n'est plus du coup cette forêt paysanne. Et la forêt que nous connaissons aujourd'hui, est bien l'héritière de ce mouvement de séparation de l'agriculture et de la forêt.
Mmh. Alors, on n'a pas parlé de la Révolution, notre Révolution française. On est passé à pied joint au-dessus entre Colbert et 1827. Si je vous ai bien lu, Daniel Perron, dans votre livre « La forêt française, une histoire politique » aux éditions de l'Aube, la Révolution n'a pas joué un grand rôle, finalement.
Non.
Non.
Alors, elle ne joue pas un grand rôle d'un point de vue institutionnelle, elle joue un grand rôle d'un point de vue intellectuel.
C'est-à-dire ?
Donc, elle va, finalement, c'est tout simplement l'admission de la raison. C'est-à-dire que la Révolution, c'est aussi le fruit des Lumières.
Oui.
Et les
mmh.
Lumières, c'est l'utilisation de la nature. Et donc, à travers la Révolution, cette révolution des pensées va s'installer véritablement. La codification, c'est véritablement un fruit. Finalement, c'est une loi de 1791 hein, qui dit qu'il faut codifier. Bon, on va attendre 1827, donc c'est le temps. Alors pourquoi autrement ? Mais tout simplement parce que la révolution, c'est la guerre.
Oui.
On ne gère pas une forêt sous la guerre. Et de toute éternité, les forêts ont souffert de ces conflits. Et donc, il est très difficile pour des révolutionnaires. Alors, moi, je pense à un qui a eu un rôle très important, qui est Barrère, qui est très méconnu par ailleurs, mais qui a un rôle extrêmement important sous la Révolution, en termes de, sur la domanialité en tout cas, et en matière forestière. Il pose les bases de la doctrine. C'est-à-dire, l'inaliénabilité, on la maintient.
C'est ça, voilà. On poursuit ce que la monarchie avait établi.
On poursuit complètement, tout simplement parce que, comme on le disait, c'est de droit public, c'est la souveraineté, c'est un instrument essentiel à la guerre.
Et au service du bien commun.
Et au service du bien commun,
c'est ça.
Tout
d'accord.
à fait. Et donc, la révolution ne va pas briser cela. Ce qu'elle va faire, en revanche, c'est qu'elle va faire, malgré tout, ce geste de séparer la forêt publique de la forêt privée. Alors
plus,
ça, c'est un geste...
Plus que ce n'était le cas avant.
Ah oui, plus que c'est... Maintenant, le forestier privé, le propriétaire privé, aura l'usus, l'abusus et le fructus.
Mmh.
Et ça, c'est une séparation qui va être assez vite arrêtée, en réalité. Parce qu'on voit bien qu'il faut au moins contrôler un certain nombre d'approvisionnements, notamment toujours pour la marine. On revient toujours à cette idée de l'usage des bois. Donc, au bout d'un moment, c'est Napoléon qui le fera notamment, on imposera le fait de prévenir les défrichements 6 mois avant de les faire. Et l'administration vous dira est-ce que vous avez le droit ou pas de le faire. Voilà, tout simplement parce qu'on viendra contrôler
c'est
si
ça.
On ne peut pas
toujours cette idée
prélever
de,
quelque chose.
De régulation.
Voilà. Ça, c'est l'apport de la Révolution, sur lequel d'ailleurs nous vivons toujours la séparation de ce qu'on appelle le régime forestier, qui est la forêt publique. Globalement, aujourd'hui, c'est ce dont s'occupe l'Office national des forêts. C'est 25% de la surface,
25%, ouais.
de la surface forestière française. Et les 75% qui restent, qui sont du domaine du privé.
Voilà. Est-ce qu'on peut dire que 25% des forêts françaises font l'objet d'une nationalisation, c'est ça ? Pour utiliser un terme d'économie contemporaine.
Elles ont été nationalisées
depuis toujours.
Depuis en réalité.
Si je vous entends bien,
dès que le pouvoir royal a pu, il l'a fait.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Alors, je voudrais vous faire écouter un deuxième extrait sonore, Daniel Perron. Je pense que ça vous parlera. Tout à l'heure, nous sommes partis dans le Limousin pour explorer des chaînes qui vont être utilisées pour la nouvelle charpente de Notre-Dame de Paris. Et là, on va partir en Bretagne. Vous allez écouter avec nous ce reportage réalisé par FR3 Bretagne. C'est autour de la forêt de Brocéliande avec toute sa charge mythique et mythologique. On écoute.
Mystérieuse, magique, magnifique.
Une terre d'histoire et de légendes, Brocéliande, une forêt entre landes et étangs.
Quand je viens dans cette forêt, je ressens vraiment quelque chose de particulier.
Le territoire d'un monde merveilleux.
La plupart des gens vous diront que s'ils sont venus à Brocéliande, c'est parce que la forêt les a appelés.
Ce que je viens chercher dans cette forêt, ce sont les lumières, ce sont les émotions.
Pour la découvrir, il faut se plonger dans les contes du Moyen-Âge, partir sur les traces de Merlin. La forêt de Brocéliande est le berceau des légendes arthuriennes.
Il faut savoir que c'est le domaine de la fée Morgane. Morgane a toujours été très malheureuse à cause des hommes. Alors elle décide d'ensorceler le Val sans retour pour y enfermer les hommes infidèles.
En son cœur trône un arbre mystérieux, recouvert de feuilles d'or. Il est dit qu'il protège la forêt, là, juste à côté du miroir aux fées.
Elles viennent ici, elles se penchent au-dessus de l'étang pour se faire une petite beauté.
Seuls ceux qui croient à la magie découvrent réellement Brocéliande et son peuple. Des petites créatures espiègles, les Korrigans, ils ont créé leur monde au pied des arbres. Mais Brocéliande n'est pas qu'un lieu féerique. C'est aussi un site archéologique. La forêt regorge de menhirs dressés il y a plus de 6500 ans. Ils n'ont pas encore livré tous leurs secrets.
On a aujourd'hui 42 menhirs debout autour de nous. Mais à ce jour, on s'est aperçu qu'il y a au moins plus de 500 pierres dans la forêt. On ne sait pas du tout où vivaient les hommes. Probablement un peu loin, mais on ne sait pas. Donc on espère qu'un jour, peut-être dans la forêt, on trouvera, ou au bord des rivières, des lieux de vie de la préhistoire sur notre territoire.
Un territoire qui s'étend sur plus de 12 000 hectares, une forêt plus vaste que Paris. Philippe Manguin, photographe, la connaît comme personne. Il sait où se trouve chaque arbre remarquable.
Majestueux. À chaque fois que j'arrive devant cet arbre, c'est impressionnant, quoi. Il dégage quelque chose d'incroyable. Ouais, de la puissance, de la force, et puis ouais, c'est vénérable.
De la forêt, il a fait des milliers de clichés. La magie des lieux, pour lui, réside dans les lumières et les couleurs. Chaque saison réinvente un paysage. Ce qui l'inspire aussi, ce sont les châteaux de contes de fées au milieu des bois. Ils appartiennent à des propriétaires privés. Les portes de ces bâtisses ne s'ouvrent pas facilement.
La magie de Brocéliande, il ne faut pas la révéler. Donc non, on garde jalousement des biens qui sont des châteaux, de la pierre ou de la nature.
Les secrets de Brocéliande se racontent jour et nuit. Il n'est pas rare, tard le soir, de croiser des conteurs que l'on dirait sortis d'un recueil de légendes.
Mais laissez-moi vous raconter une vieille, vieille histoire. Une vieille histoire bien plus vieille que les contes. Parce que ce sont les racines.
Mais attention, lorsque la lune apparaît dans le ciel, la forêt redevient le territoire des créatures magiques.
Voilà, c'était la forêt de Brocéliande, vue par nos confrères de France 3 le 21 juillet 2020. Alors, la forêt de Brocéliande, 12 000 hectares, terre d'histoire et de légende, Merlin l'Enchanteur, la fée Morgane. Daniel Perron, cette dimension mythique, mystique de la forêt, est-ce que c'est une constante dans notre histoire ?
Ah, c'est une constante. Alors, en tant que breton d'origine, je ne pourrais pas vous dire que je ne suis pas sensible à cette histoire d'Arthur, à l'histoire arthurienne, à la poursuite du Graal qui tout simplement commence en forêt. Donc effectivement, ça suit complètement encore une fois ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette idée de l'émancipation de l'individu et ce besoin de retourner, pour en tout cas un certain nombre de personnes, dans peut-être ce qu'ils estiment être le sein de l'humanité.
L'origine du monde.
L'origine du monde.
Ouais.
Et j'aime beaucoup le reportage parce qu'il montre cette mystique un peu panthéiste.
Il faut le dire.
On est quand même obligé
on
de le dire.
Dire oui.
On peut
oui,
le
oui.
dire. Qui revient un peu, mais qui a quelque chose de germanique. Si on,
c'est ce que certains appellent le néo-druidisme.
Voilà.
Voilà.
En effet. Cette pensée-là, aujourd'hui, revit à travers... On connaît certains livres qui expliquent qu'il faut caresser les arbres, qu'il faut leur faire des câlins et autres. Pourquoi pas, d'ailleurs. Ça
vous, ça vous laisse froid, vous qui êtes expert, juriste et historien forestier.
En tant que juriste, ça aurait tendance à me laisser froid. En tant qu'homme, je laisse chacun tout à fait... Alors moi, je ne suis pas forcément sensible à ça, mais je laisse chacun tout à fait libre de ses croyances. J'irai certainement pas critiquer cela.
Les racines du présent, Frédéric Mounier.
Les racines du présent aujourd'hui autour de nos forêts, si précieuses d'hier à aujourd'hui, et nous retraçons 9 siècles d'histoire des forêts avec l'historien Daniel Perron. Nous conversons autour de son livre « La forêt française, une histoire politique » aux éditions de l'Aube. Alors il faut rappeler, Daniel Perron, qu'à partir du 19e siècle, les gouvernements ont pris des décisions véritablement volontaristes autour de l'implantation de forêts. Vous nous rappelez que la restauration des terrains de montagne pour retenir les pentes et empêcher les inondations a commencé à cette époque-là, de même que l'assainissement des marais dans les Landes qui a passé par des travaux énormes de plantations forestières. Là, l'État a agi pour construire des forêts en quelque sorte.
Alors l'État a agi pour construire des forêts, pour protéger la population. D'abord, alors c'est un mouvement très long parce que c'est un mouvement qui prend 60 ans en réalité de réflexion, à partir même des dunes de la région bordelaise. Hein, on a les premiers travaux pendant la Révolution avec une personne, Brémontier, qui fait son travail tout seul, voilà, qui expérimente tout seul comme on pouvait le faire à l'époque finalement. Donc là, on va retenir les dunes et au fil du temps... le pouvoir est tout simplement confronté à d'énormes dégâts, ce qu'on appellerait aujourd'hui des dégâts environnementaux, des catastrophes naturelles.
Il y avait déjà des crues incroyables.
Il y avait déjà des crues incroyables.
Notamment
sous
le Second Empire.
Oui, avec beaucoup de morts, avec même le besoin pour l'Angleterre de venir en aide économiquement au régime de Napoléon III, par exemple. Un phénomène torrentiel. Mmh. Un phénomène torrentiel qu'il a fallu comprendre et sur lequel il a fallu lutter. Alors, on sait depuis longtemps que la forêt a un rôle essentiel en matière de climat, de gestion de l'eau, etc.
La forêt tient les pentes.
La forêt. Et on a découvert peu à peu, effectivement, alors depuis longtemps, mais scientifiquement, il fallait le prouver. Alors là, il y a un monsieur qui s'appelle Surel, qui est vraiment le père de la science torrentielle, qui fait ses travaux, évidemment un ingénieur des mines, qui fait ses travaux et qui montre qu'on a besoin absolument de faire cela. Mais il le montre dès les années 1840. Le pouvoir politique étant ce qu'il est,
le temps
politique étant ce qu'il est, les besoins financiers étant ce qu'ils sont.
Oui, parce que ça coûte très cher.
Ça coûte très très cher. Et on a toujours, là pour le coup, c'est la même problématique au 19e siècle qu'en ce début de 21e siècle. On retarde jusqu'au jour où des grandes catastrophes arrivent. Là, Napoléon III est bien confronté à cette misère humaine. Hein, ça va jusqu'à la Drôme. C'est dire l'importance des phénomènes. Et on décide finalement de faire des lois qui vont permettre de reconstituer les terrains de montagne, tout simplement de remettre des arbres pour tenir les pentes.
Et en sachant qu'il faudra plusieurs générations pour que cette action porte ses fruits.
En sachant qu'il faudra plusieurs générations et en tâtonnant, est-ce qu'il faut passer par l'obligation? Alors on a beaucoup de mal à obliger les propriétaires privés à le faire. En plus, ils sont très pauvres, ce sont des régions extrêmement pauvres, véritablement très pauvres. Et donc c'est très difficile pour ces propriétaires privés de faire quelque chose. Et donc on va avoir une législation qui va évoluer comme ça sur une vingtaine, trentaine d'années pour permettre cette restructuration qui va durer finalement tout le long de la Troisième République.
Et c'est aussi à cette époque-là qu'ont été plantés les pins des Landes.
C'est aussi à cette époque-là, pour une autre raison.
Oui, pour une autre raison.
Un assèchement des forêts.
Enfin, lutter contre le paludisme.
L'assèchement des marais, j'ai dit forêts. Et là, effectivement, là, c'est des questions sanitaires. Alors, on a une autre vision aujourd'hui des marais, mais à l'époque, c'est bien cela. Et là, on construit finalement une forêt, celle que l'on connaît, et qui est absolument essentielle aujourd'hui à notre équilibre.
Et qui est un lieu aussi d'exploitation économique. Alors, vous évoquiez tout à l'heure les guerres, et il y a des pages tout à fait intéressantes dans votre livre où vous nous racontez comment les guerres ont ravagé les forêts, notamment dans l'est du pays. les forêts ont été saignées véritablement.
Véritablement, tout le long en réalité. Alors, tout simplement, alors, si on regarde le Moyen-Âge, l'Ancien Régime, on a la problématique finalement de la mise en danger des villages paysans. Où est-ce que l'on se réfugie quand on est paysan? On se réfugie dans la forêt.
Où est-ce que l'on face, aux bandits, face aux bandes armées.
Mais face aux bandes armées, face aux militaires, etc. Et donc, on va aller en forêt. Ouais. Et donc, le lieu de refuge est aussi un lieu où on va vivre, où on va défricher, etc. etc. On va même avoir parfois du mal à faire revenir les gens dans les villages parce qu'ils ont la peur, tout simplement, les fait se réfugier ailleurs. Donc, on a tout au long, finalement, des guerres d'Ancien Régime, ce phénomène plus dans l'Est. Alors, évidemment, la guerre de Vendée est un exemple absolument phénoménal. On a un discours de Barère qui fait son rapport sur la Vendée et qui explique « on brûlera tout ». Voilà.
Les forêts, les hommes, les femmes, les enfants.
Tout le monde.
Et ça a été effectivement une guerre d'extermination.
C'est une guerre d'extermination, il faut le dire. Et là, on n'hésite pas. Tous les moyens sont bons. Et petit à petit, ensuite, alors après, nous connaissons les grands conflits avec l'Allemagne. Alors, à l'Est, ça joue beaucoup, effectivement, puisque les Allemands sont accusés, en tout cas après 1870, d'avoir très nettement surexploité les forêts de ces régions. Volontairement, évidemment. en tout cas, c'est ce que les auteurs de l'époque disent. Et on a une transformation comme ça. À partir du XXe siècle et de la Première Guerre mondiale, la forêt devient un atout. Parce que c'est là où on va se cacher de l'aviation.
De l'aviation.
Par exemple. Donc, on va avoir cette idée. Après, la forêt va être dévastée. On connaît Verdun.
Oui, il va être haché menu.
Il va être haché menu. Ouais. On connaît encore aujourd'hui ce qu'on appelle les bois mitraillés. Donc, une difficulté, tout simplement, à récolter des bois qui sont mitraillés, c'est-à-dire qu'il y a des balles dedans.
Oui, mais quand même, ils ont repoussé. C'est ça qui frappe les visiteurs sur les champs de bataille.
Il y a une résilience, pour employer un terme d'aujourd'hui, une résilience de la forêt extraordinaire.
La nature est plus forte.
La nature, en effet, est plus forte. Si on lui donne le temps, la nature est plus forte.
C'est ça. C'est toujours cette question du temps qui revient.
En forêt, c'est essentiel.
Alors, le temps, il est aussi politique. Je crois qu'il y a un exemple que vous évoquez dans votre livre aussi, dans cette forêt très connue qui est la forêt de Troncay, dans l'Allier. C'est une forêt qui était réputée pour la qualité de ses bois pour la marine au XVIIIe siècle. Et puis, il y a l'histoire de ce chêne qui s'est appelé le chêne Pétain, puis le chêne Gabriel Péri, puis le chêne de la Résistance. Racontez-nous, Daniel Perron.
Ah, c'est une initiative du début du pétainisme qui est absolument essentielle. On installe la figure du père sauveur, enfin le réinstalle, si je puis dire. Effectivement, Jacques Chevalier, qui est à l'époque ministre, se trouve lui... De l'instruction publique. Il se trouve lui être un voisin de cette forêt et à l'occasion d'un voyage du maréchal Pétain dans la région, lui dit « Tiens, on pourrait faire quelque chose en forêt. » C'est vraiment on appellerait ça une opération de communication politique.
Oui, parce qu'il faut rappeler qu'une partie de la mystique de l'État français était fondée sur la terre.
Exactement.
Terre qui ne ment pas.
La terre ne ment pas.
Voilà.
Et on a vraiment, c'est vraiment le mouvement qui est issu de l'après-Première Guerre mondiale. En réalité, c'est un mouvement où on remet les paysans à l'honneur, puisque les paysans se sont sacrifiés pour la patrie entre 14 et 18. Il ne faut jamais oublier ça. Et donc, ce mouvement-là renaît autour du paysan, très fort. Et on va aller chercher en forêt le chêne. Pourquoi le chêne? Parce que le chêne vit vieux. Parce que le chêne a une résilience, parce qu'il est résistant. Et ce sont exactement les vertus que M. Chevalier veut...
Qui était prôné par Philippe Pétain et Jacques Chevalier.
Oui, qu'il incarne. Ouais. Qu'il incarne véritablement.
C'était
en réalité...
presque une forme d'écologie avant l'heure. Toutes choses restant égales par ailleurs. Voilà, je ne me permettrai pas de faire cette comparaison. Mais en tout cas, il y avait une thématique qui était une thématique publique, gouvernementale.
Oui, c'est une thématique de la force.
Et donc, Philippe Pétain s'est rendu à Troncay. Ils ont trouvé un chêne remarquable, datant de 1640, avec une circonférence, si je ne me trompe pas, de 3,68 m. Mais c'est un chêne qui a une belle histoire, son fût est droit, et donc il a été baptisé.
Il a été baptisé, le chêne Pétain.
Le 8 novembre 1940.
Voilà. En l'honneur du chef de l'État. Pour, encore une fois, donc, rappeler toutes les vertus que l'on donne, enfin que l'on, oui, que l'on voilà. confère au maréchal. En réalité.
Et puis 4 ans plus tard, ce chêne a été débaptisé, rebaptisé.
4 ans plus tard, les résistants ont fait leur travail de résistance. Ils l'ont effectivement rebaptisé chêne Gabriel Péri, du nom donc de ce résistant fusillé. Mmh. Et après, effectivement, plus tard, donc en 1982, il a été rebaptisé de nouveau chêne de la résistance.
Mais c'est
On
le
a
même
élargi,
voilà.
mais c'est le
Et
même
c'est
chêne,
le même chêne voilà. qui n'a toujours pas été abattu.
Qui n'a toujours pas été abattu.
Voilà. Voilà pour cette petite histoire. Alors, nous arrivons au XXe siècle. La forêt, dont on a bien compris qu'elle était un espace de production, un espace d'assises du pouvoir monarchique, puis du pouvoir républicain, devient un espace récréatif. Et ça, c'est nouveau.
Alors, c'est totalement nouveau. Oui. Et c'est issu, finalement, du mouvement de Barbizon.
Mmh, c'est-à-dire ?
Des peintres.
Oui.
Les peintres qui vont en forêt de Fontainebleau et qui découvre un paysage. C'est la création du paysage en peinture, en réalité, en France, à ce moment-là. Et le premier geste, ça va être de maintenir ce qu'on appelle la série artistique de Fontainebleau, qui existe toujours. Mmh. Et on va donc créer un texte de loi qui va nous expliquer qu'on va garder, sans la toucher, donc une parcelle de cette forêt, avisée.
Sans la toucher.
Sans la toucher, on ne la touche pas. Donc, simplement à visée récréative au sens artistique du terme. Ensuite, on a à la fin du 19e siècle, on a cette idée que les urbains commencent à avoir un peu de loisir, ce qu'on n'avait pas avant.
Ouais.
Et ce loisir, notamment à Paris, il se fait alentour.
Dans les forêts.
Il se fait dans les forêts. Et la forêt devient un lieu de récréation le dimanche. Une fois qu'on a installé le dimanche en 1906, la forêt devient ce lieu de récréation, un lieu où l'on va respirer.
Donc on l'aménage dans cet objectif.
On l'aménage dans cet objectif.
Avec des sentiers.
Avec des sentiers. Elle devient finalement ce lieu où l'on va pouvoir penser à autre chose que notre quotidien.
Mais alors, il n'y a pas uniquement la récréation, mais il y a aussi l'industrie. Alors aujourd'hui, venons-en à aujourd'hui, si vous le voulez bien. En 1964, on crée l'Office national des forêts, l'ONF.
Oui.
Quel était l'objectif? C'était un objectif productiviste ou rationaliste ou simplement industriel, de protection?
Alors, l'Office national des forêts a une histoire un peu compliquée. C'est en fait une problématique budgétaire, à la base. Bêtement budgétaire, strictement comptable, en réalité. Le ministre Pisani, Edgar Pisani, qui est le grand ministre de la révolution agricole, s'il en est un, dit « Moi, j'ai un problème, je ne sais pas m'occuper de la forêt annuellement. Je ne sais pas faire, puisque mon budget est complètement pris par l'agriculture. » Donc, il cherche une solution, en réalité, pour s'occuper des forêts. Et il trouve cette solution de l'Office national des forêts, qui est un établissement public industriel et commercial, auquel il dit, eh bien, écoutez, moi, je vous transfère l'administration des eaux et forêts. C'est de cela dont il s'agit. Et vous allez vivre des récoltes. Voilà. L'objectif donc de l'Office national des eaux et forêts à la base, c'est qu'ils vivent des récoltes et non plus d'un budget hypothétique qu'on doit négocier tous les ans. Et c'est lié complètement à une nouvelle vision finalement, alors que qui est très proche de celle de l'agriculture productiviste. Il faut faire du bois. On est sur cette idée, alors que moi je ne critique pas, c'est vraiment l'idée du moment, c'est le post-guerre, il faut reconstruire la France, on a besoin de bois. Il faut imaginer qu'on n'a plus de bois à la fin de 1945.
Oui, à ce
c'est que les villes sont ravagées, il faut reconstruire.
Il faut de la charpente.
Il faut de la charpente, etc., etc. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que le pouvoir, dès 1944, pense forêt.
D'accord.
Pour la reconstruction. C'est ce qu'on va appeler le rapport Leloup, par exemple, qui va donner finalement les grandes orientations de cette forêt productive nécessaire.
Alors certains nous disent aujourd'hui, et venons-en à notre période contemporaine, on a trop exploité la forêt souffre de déforestation massive, on a mis des pins Douglas partout, des résineux, ça va pas du tout. Quel regard portez-vous sur ce constat pessimiste, Daniel Perron, avez étudié l'histoire des forêts?
Pour moi, c'est un constat qui est faux, tout simplement, il faut le dire aussi brutalement que ça. La forêt, c'était 10,5 millions d'hectares en 1912, c'est 17 millions d'hectares aujourd'hui. C'est une récolte pour les dernières statistiques que l'on a qui est autour de 50 à 60% de ce qu'on appelle le croît naturel. C'est-à-dire que ce qui pousse annuellement, on en récolte la moitié.
D'accord.
Alors peut-être un peu plus.
Donc ça reste raisonnable.
Ça reste raisonnable, oui. Et surtout, depuis 30 ans, le stock de bois sur pied a doublé. Donc quand on parle de déforestation, on est quand même très loin de la chose.
D'accord.
En revanche, il y a eu véritablement un mouvement d'enrésinement, mais qui est lié, celui-là, à l'après-guerre. C'est une volonté...
Il fallait des bois qui poussent vite.
Il fallait des bois qui poussent vite, des bois qui poussent droit, tout simplement, et des machines, etc. Alors, ceci dit, la forêt française, c'est 67% encore, à peu près, de forêt de feuillus. Donc, on est quand même très, très loin de cet enraisinement massif.
C'est pas une colonisation.
Hein. C'est pas une colonisation. Mmh. Il y a des secteurs où c'est fait, c'est clair, en Bourgogne notamment, etc. Mais on est très loin de la déforestation.
Alors, cette filière représente aujourd'hui, si je vous ai bien lu, Daniel Perron, 400 000 emplois. C'est une filière dont vous dites qu'elle est fragile et inorganisée. Nous avons une forêt très diversifiée, écrivez-vous, inadaptée aux critères de l'industrie. Et puis avec une parcellisation aussi, je crois, très très importante, c'est-à-dire la propriété est très très disséminée et c'est peu apte à une exploitation véritablement rentable, Daniel Perron.
Oui, alors, c'est à la fois un atout qu'on ait beaucoup de propriétaires privés, parce que ça intéresse énormément de gens, du coup, la forêt.
Ils s'en occupent.
Ah, ils s'en occupent comme un espace de loisirs, la plupart, il faut le reconnaître, quand ils savent où aller. Parce que parfois, on ne sait même pas qu'on est dépositaire
d'un bout de bois quelque part. On a reçu ça du tonton André et on ne sait pas. Oui.
Voilà. Donc, on a cette problématique-là. Effectivement, la filière française, c'est déjà, alors techniquement, on appelle ça deux interprofessions, etc. C'est pas encore quelque chose qui est très structuré si on le compare au monde agricole, par exemple. Et on peut le comparer. Donc là, il y a sans doute une révolution à faire. Je le dis toujours, 400 à 440 000 emplois, c'est l'équivalent de l'automobile.
Oui.
C'est 30% du territoire. C'est quelque chose qui mérite...
Donc c'est du lourd.
C'est du lourd. C'est quelque chose qui mérite véritablement qu'on s'y intéresse.
Alors, peut-être un dernier point avant de nous quitter, malheureusement, Daniel Perron. Je rappelle toujours le titre de votre livre, La forêt française, une histoire politique, aux éditions de l'Aube. Vous déplorez le fait qu'au niveau mondial, il n'existe pas d'instrument de politique mondiale. Il n'y a pas de Nations Unies de la forêt, ça n'existe pas.
Ah, il y a la FAO.
Oui, qui s'en occupe.
Qui s'en occupe un peu. On voit que le succès n'est pas énorme, puisque là, il y a au niveau mondial, effectivement, une vraie déforestation. Il y a un problème, tout simplement, de capacité de l'humanité à gérer la forêt comme un bien commun mondial. C'est-à-dire,
pour l'instant, c'est les États.
Pour l'instant, c'est les États. Ouais. Alors, c'est les fêtes de Rio, en 1993. Qui fait cela, on n'est pas encore arrivé à créer quelque chose, un outil international efficient, si je puis dire. Alors, le réchauffement climatique et le rôle de la forêt dans ce réchauffement climatique peut nous permettre quand même d'être optimistes sur l'évolution.
Donc il va peut-être se passer quelque chose.
Il pourrait, en tout cas, on peut espérer qu'il se passe quelque chose.
Très bien. En tout cas, un grand merci à vous, Daniel Perron. Je rappelle que vous êtes juriste, vous êtes historien, et en particulier historien de la forêt française. Avec vous, nous avons traversé l'histoire de la forêt française, nos forêts si précieuses d'hier à aujourd'hui, par votre livre « La forêt française, une histoire politique ». C'est aux éditions de l'Aube. Un grand merci à notre réalisateur Pierre Samanos. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références du livre de Daniel Perron sur le site de RCF et vous pouvez évidemment nous écouter en réécoute, en podcast, en balado-diffusion à partir du site de RCF. Merci à vous tous pour votre fidélité et à la semaine prochaine.